Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 26 juin 2024 et le retour est arrivé, ou le coup droit est arrivé, je sais pas comment il faut le dire, l'uppercut. Eh bien, tout le monde a renversé la vapeur. Nvidia est revenu au top du top de son jeu. Alors, c'est pas encore gagné, mais je veux dire, on a bien récupéré ce qu'on a perdu ces trois séances précédentes. C'était un reversal assez spectaculaire sur l'action américaine. Encore une fois, c'est assez marrant comme tout d'un coup, tout le monde s'est lié pour venir sauver Nvidia. Encore une fois, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Avant, c'était sauver le soldat Ryan. Maintenant, c'est sauver Nvidia. Et donc, ces quelques doutes qu'on a eu pendant quelques jours, eh bien, se sont subrepticement envolés parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même vachement cool. Et donc, Nvidia est reparti à la hausse. Par contre, il s'est passé plein de choses hier soir. Il y a pas mal de réflexions à faire sur les marchés en ce moment. Donc je commence comme d'habitude, j'ai envie de dire comme d'habitude parce qu'on parle que de ça. Je me disais ce matin, est-ce que c'est possible de parler de marchés financiers sans aborder le sujet de l'intelligence artificielle ou de Nvidia ? Apparemment, pas du tout. Donc en gros, Nvidia hier a rebondi. La raison du pourquoi, du comment elle a rebondi, difficile à dire bien sûr, mais il semblerait qu'il y ait quand même pas mal d'analystes qui soient sortis dans la rue avec des panneaux hier pour dire « Il faut acheter Nvidia ! Il faut acheter Nvidia !» Oui, il y en a eu plusieurs, les gens qui disaient que c'était pas cher, les gens qui disaient que ça valait beaucoup plus cher, les gens qui disaient qu'il était le moment d'acheter, que c'était une opportunité, il y a eu tout ce que vous voulez, il y a eu plusieurs analystes qui sont vraiment venus régulièrement parler dans les médias. Il y en a un en tout particulier qui a même ajouté que selon lui, pour lui, Nvidia, elle pouvait facilement monter à 250 à la fin de cette année. Donc 100% de performance à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année en 131 jours de trading. Ça représente 131 jours de trading et ça fait 100% de hausse sur Nvidia. On n'aurait même pas osé faire un truc pareil sur le Bitcoin. Mais maintenant, on n'a plus aucun complexe. Nvidia peut facilement doubler. Donc, il y a eu un rebond. Le titre a repris quasiment 7%. Tout le reste avec elle. Le semi-conducteur index, le Nasdaq. Bref, tout va bien à nouveau du côté de la techno et de l'intelligence artificielle. Un petit peu moins bien du côté du Dow Jones, puisque bah, comme d'habitude, hein, on a vu ces derniers temps, hein, quand le Nasdaq baisse, le Dow Jones monte, et quand le Nasdaq monte, et bah, le Dow Jones baisse. Pour l'instant, il y a comme espèce de, comment dire, équilibre des fluides de chaque côté, et qui fait que finalement, eh bien, le Dow Jones en a pris pour son grade. On a pris pour son grade aussi parce qu'il y a eu 2-3 commentaires assez négatifs. Tout d'abord, il y a eu, il faut le retenir, Walmart. Walmart qui a dit qu'il voyait quand même que le consommateur, il était moins à l'aise que d'habitude, il claquait plus sur n'importe quoi. Et puis donc du coup, il faisait attention, donc il y avait un changement de comportement du consommateur et ils étaient prudents pour la seconde partie de l'année. Donc par effet de capillarité, on s'est dit ou attention consommateur, Walmart, bam. Derrière, on s'est dit Home Depot, bam. Donc voilà, donc les deux boîtes de consommation à l'intérieur du Dow Jones ont tiré le Dow Jones à la baisse. On notera aussi Boeing. Alors Boeing, ils nous ont fait un nouveau truc, enfin c'est pas eux quoi. Un de leurs avions, un 737 Max pour changer, qui a eu un problème de pressurisation tout en haut et donc ils ont dû descendre de 27 000 pieds en l'espace de 12 ou 15 minutes. Donc pas de mort, pas de blessés, quelques peurs et quelques stress au niveau des passagers. Bien sûr, c'est des gens qui probablement vont faire de la pub pour les trains, pour les CFF ces prochains temps, qui adoreront prendre le train. Et a priori, je pense que vous ne les croiserez pas à Europa Park cet été, parce qu'au niveau carousel, ils auront payé cette année. Donc, grosse peur chez Boeing, rien de grave au niveau physique ni au niveau aéronautique. Néanmoins, le titre était sous pression, mais aussi parce que de l'autre côté, en Europe, Airbus s'est fait allumer. Airbus, vous l'avez vu, a perdu 9,5% hier. Alors la raison de la déconfiture d'Airbus dans la séance d'hier, eh bien, c'est qu'ils ont dit qu'ils n'arriveraient pas à livrer quelques avions. Alors quelques avions, on parle d'une trentaine, c'est difficile de savoir exactement le nom, mais en tout cas, on va dire en tout cas 30 avions. 30 avions, vu que ça coûte quand même pas 50 000 balles l'avion, ça fait beaucoup d'argent qui ne rentreront pas dans les caisses cette année. Donc du coup, ben, un gros profit warning d'Airbus qui perdait 9,4%. La problématique sur Airbus, eh bien, c'est pas tant eux le problème, c'est plutôt les gars qui leur fournissent le matos. Ils ont des problèmes avec la livraison des moteurs et des problèmes avec la livraison des cockpits. Eh ben, un avion sans cockpit et sans moteur, ça marche beaucoup moins bien, donc ils peuvent pas livrer. Résultat, eh bien, on balance tout ça pour plus tard. Et du coup, ben, profit warning, downgrade tout azimut. La plupart des analystes se sont précipités, comme ils sont visionnaires. Dès qu'ils ont eu la mauvaise nouvelle, ils ont précipité leur downgrade et le titre a perdu quasiment 10%, entraînant avec lui le CAC, qui terminait malgré tout au-dessus des 7600. Je ne reviendrai pas sur le débat des trois clowns hier soir parce qu'on s'en fout, ça n'apporte strictement rien. De toute manière, ça changera pas l'envie de voter des Français d'un côté ou de l'autre. Et puis dans les secteurs bonnes nouvelles, on va quand même signaler FedEx. FedEx qui a publié deux bons chiffres et qui a annoncé des cost-cutting au niveau de la société. Alors cost-cutting, c'est le mot poli pour dire on va virer des gens, mais ils ont pas donné le nombre de gens qui vont se faire virer. Néanmoins, très bons chiffres. Et je vous le disais hier, quand FedEx publie des bons chiffres, ça veut dire que l'économie va aller bien plus tard. Donc du coup, c'était plutôt rassurant du point de vue économique. Et de l'autre côté, c'était plutôt rassurant pour les actionnaires. Le titre prenait 14% after close. Donc on voit aussi que ça va quand même plutôt bien. Il y a ce côté optimisme exacerbé qui est assez phénoménal. Parce que si je prends un peu tout ce qu'on a eu comme nouvelle ces derniers temps, on voit que le marché a tendance vraiment toujours à aller chercher le bon plutôt que de voir le mauvais. En l'occurrence, on a encore eu le cas hier soir avec la confiance du consommateur. Alors, la confiance du consommateur est sortie hier à 100,4, c'était attendu à 100, donc c'est plus fort que ce qui était attendu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mais par contre c'est nettement en dessous du mois dernier, un point en dessous du mois dernier. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même à l'intérieur du chiffre qu'il y a un léger ralentissement. Comme l'a dit Walmart, il y a un certain fléchissement dans le comportement du consommateur. On sait qu'aux États-Unis, le consommateur, c'est le moteur de la croissance économique. Donc, s'il n'y a plus la A+ croissance, et puis ça tombe bien parce que demain, on a le PIB. Mais à côté de ça, vous avez donc le consommateur qui change d'opinion, qui est en train de ralentir gentiment. Pour l'instant, on ne veut pas trop le voir. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'était de lire les commentaires par rapport à la confiance du consommateur, justement, puisque les gens disaient « Oui, c'était plus bas que le mois dernier, mais si vous regardez à l'intérieur, il y a quand même des trucs qui sont positifs. » On va pas trop gratter plus loin pour savoir quels étaient ces trucs positifs. C'est probablement lié à l'intelligence artificielle, mais toujours est-il que, le marché a relativement bien tenu le coup. Donc le Dow Jones en baisse, et puis la techno en hausse, et puis le S&P en hausse, parce que il suivait le move de Nvidia. Quand vous avez une Nvidia qui prend 7%, vu la taille du monstre, forcément, ça rebondit beaucoup plus facilement. Parlons un petit peu macro. Ce matin, si vous regardez les indices asiatiques, vous verrez que le Japon est légèrement en hausse, un peu plus de 1% de hausse. Ça, c'est principalement drivé par le rebond technologique aux États-Unis hier. Et puis, vous verrez que Hong Kong et la Chine ne font rien. Par contre, si vous regardez un peu plus loin aussi, gratter plus loin, vous verrez que l'Australie est en baisse de 1%. Alors, l'Australie, ils ont annoncé une nouvelle assez intéressante ce matin. Ils ont annoncé que l'inflation était sortie plus forte que les attentes. Et quand je dis plus forte, c'est nettement plus forte. On attendait 3,8% d'inflation, c'est sorti à 4%. Mais surtout, le mois dernier, on était à 3,6%. Donc, on voit une accélération de l'inflation. Et ils n'ont pas encore commencé à baisser les taux, alors qu'ils y pensaient. Et donc, du coup, vous me direz, bien sûr, on s'en fout de l'inflation en Australie. Parce qu'on n'y est pas. Ouais, bien sûr. Mais le fait est, c'est que le mécanisme est un peu le même un peu partout quand même. Donc, ils n'ont pas encore baissé les taux. Et l'inflation repart brutalement à la hausse. C'est une grosse surprise. C'est comme ça que la Banque centrale l'exprime. Et en tous les cas, on parle plutôt maintenant de hausse des taux en Australie pour essayer de freiner cette inflation brutale. Il va falloir agir vite. Donc du coup, alors qu'on attendait de savoir quand est-ce que la Banque centrale australienne allait baisser les taux, là on se rend compte qu'on se demande quand c'est qu'ils vont les monter. Vous rajoutez à ça hier Madame Bowman de la Fed qui a déclaré que pour elle et pour la Fed, le fait de ne plus jamais monter les taux n'était pas encore complètement exclu du plan, donc il y avait toujours une petite possibilité de voir une hausse des taux. Alors ça ne correspond pas du tout avec ce qu'on a vu comme chiffre économique ces derniers temps, donc on se raccroche à ça, mais il ne faut pas oublier que les banquiers centraux, certains banquiers centraux le voient toujours comme ça. Et puis si on va plus loin, vous pouvez regarder aussi hier, le Canada a annoncé également une inflation plus forte que prévu. Et en revanche, le Canada était la première banque centrale du G7 à baisser ses taux. Résultat, vous avez une banque centrale, une grosse banque centrale, Canada quand même, qui a baissé ses taux au plus vite que les autres. Un peu moins vite que la Suisse, mais plus vite que les autres. Et résultat, vous voyez que directement derrière, bam, l'inflation, elle repart à la hausse. Alors on va pas dire que c'est à cause de ça. Ce serait un peu fort de café. Mais l'un dans l'autre, on voit quand même que c'est pas évident d'être banquier central, parce que dès que vous baissez les taux, boum, vous avez un spike sur l'inflation, on dit « Ah, c'est de ta faute !» Résultat, le Canada, ils se disent « Ah, peut-être qu'on aurait peut-être pas dû les baisser tout de suite. » Et puis de l'autre côté, en Europe, vous avez Madame Lagarde qui fait « Ah non, mais qu'est-ce que je vais faire ? Pourquoi j'ai baissé les taux ?» Donc du coup, angoisse du côté de la BCE, parce que sur les prochains chiffres de l'inflation, si tout d'un coup ça repart à la hausse, on se dit « Ah, on a bien fait de les baisser au mois de juin. » On n'a pas fini de rigoler de ce côté-là. Puis je vous dis même pas les terreurs nocturnes de Powell qui sait plus quoi faire parce qu'il est dans la machine à laver en cycle SRH pour l'instant et il sait plus ce qu'il doit faire avec ses taux, envisager de les baisser en juillet, envisager de les baisser en septembre, en décembre, pas du tout, l'année prochaine, les monter, il sait plus quoi faire. et on voit que l'inflation, bah, c'est un animal assez difficile à dompter en ce moment, et que finalement les décisions des banques centrales qui ont été prises ces derniers temps sont un tout petit peu remises en question, tout spécifiquement sur le Canada. Affaire à suivre. Et puis alors, hier, les gourous étaient sortis, hein, on a eu pas mal de gens qui sont venus parler. Alors vous avez eu tout d'abord le CIO de Morgan Stanley. Alors je la fais courte, le CIO de Morgan Stanley est venu dire « Attention, si les non-farm payrolls dans 10 jours sont en dessous de 100 000, le marché va corriger de 10%. » Alors il faut faire un rewind sur la bande magnétique du magnétoscope et vous verrez que le CIO de Morgan Stanley, il y a 3 semaines, il avait un target à 4500 sur le S&P 500. Il a corrigé son target, il l'a monté à 5004. Donc le mec, il est passé de bearish à bullish. Et maintenant, il se rend compte que si tout d'un coup l'emploi venait à ralentir, ça pourrait faire mal au marché. Alors là, il vient un peu tout penaud en disant « Oui, alors moi, je suis bullish. Hein. Mais si jamais il y a des mauvaises nouvelles, eh bien, ça pourrait baisser quand même. » C'est un peu comme le gars qui fait la météo, qui vous dit « Ah bah aujourd'hui, il fera soleil. Mais attention, s'il y a des nuages, il pourrait pleuvoir. » Donc en gros, le gars, il est fantastique. D'ailleurs, ils sont tous fantastiques, ces analystes. Mais là, le stratégiste de Morgan Stanley, après avoir tourné bullish il y a 3 semaines, il vient nous dire « Attention, on ne sait jamais. » Et d'ailleurs, dans la foulée de ça, vous avez Charles Schwab. C'est pas un monsieur, c'est la banque américaine, Charles Schwab, qui est venu annoncer hier que selon elle, aujourd'hui, le marché avait un profil parfait pour déclencher un crash boursier. Ah ben voilà, ça fait un de plus. Et dans la foulée, pour continuer, vous avez le stratège de Goldman Sachs qui pense que lui, le marché va encore prendre 4% sur le S&P 500 pour atteindre son target à la fin du mois de juillet. Et puis après, on verra bien ce qu'on fait pour le reste de l'année. Donc vous voyez que c'est assez sympa d'être analyste parce que vous dites ce que vous avez envie, souvent n'importe quoi, de toute manière, personne ne s'en souvient. Et puis après, on passe à autre chose. Et l'autre chose, alors la nouvelle du jour absolument fantastique, c'est ce genre de nouvelle que j'adore. Hier, Volkswagen, après la clôture aux États-Unis, Volkswagen a annoncé qu'ils allaient investir 5 milliards dans Rivian. Alors voilà, il n'y a plus personne qui veut des voitures électriques, mais Volkswagen, eux, ils veulent racheter Rivian. Enfin, ils vont pas racheter Rivian, mais en tout cas, ils vont injecter 5 milliards pour pouvoir bénéficier de la technologie des voitures électriques de Rivian et améliorer la qualité de leurs voitures électriques à eux en Europe pour devenir le leader mondial de la voiture électrique. On va schématiser ça comme ça. Alors évidemment, ça a hyper plu à Rivian, qui n'était pas dans une situation hyper rigolote. Le titre a pris 50% after close hier soir. 50%, pas demi-mesure, 50%. Mais là où c'est encore plus intéressant et encore plus drôle, et là où on voit que finalement, dans la bourse, dans le monde de la finance, on est tous égaux, sauf qu'il y en a qui sont plus égaux que les autres, juste avant la clôture du marché, il y a un mec qui est venu acheter un lot de call, une quantité astronomique de call sur Rivian avec un strike 13. Donc au moment de l'achat, ça valait que dalle. Et after close hier soir, ça valait 18$. Le titre valait 18$. Vous avez un strike à 13, vous avez acheté des options à rien et ça vaut déjà 5$ quasiment. Le lendemain matin, avant l'ouverture, on se réjouit de voir l'ouverture de Rivian et on se réjouit de voir le FBI débarquer cette personne pour lui poser des questions au niveau du délit d'initié. C'est quand même extraordinaire parce que ce genre d'histoire, ça arrive toujours, mais on en parle plus jamais après. Voilà, aujourd'hui, c'est mercredi, demain, nous aurons le PIB, vendredi, il y aura le PCE, je l'ai suffisamment répété jusque-là. Aujourd'hui, il y aura le climat de consommation en Allemagne, le nombre de chômeurs en France, il y aura les inventaires pétroliers, et il y aura aussi les ventes de maisons. À surveiller les ventes de maisons parce qu'on voit que finalement, les prix des maisons sont très très hautes, et que de l'autre côté, on voit aussi que l'indice qui calcule la capacité des gens à s'endetter pour acheter des maisons, je parle aux États-Unis bien sûr, eh bien, celui-ci est en train de chuter. Ce qui veut dire que finalement, il y a plein de maisons qui sont très chères, mais plus personne qui a vraiment les moyens de les acheter. Donc, certains analystes attendent une certaine correction. Donc, attention aux chiffres des ventes de nouvelles maisons cet après-midi. On ne sait jamais. Et puis, surtout, après ce chiffre-là, il y aura les stress tests des banques. Alors, je me tue à le répéter depuis une semaine. Visiblement, tout le monde s'en fout. Mais on verra quand même. On ne sait jamais ce qui peut ressortir. Ce sera toujours intéressant parce que je rappelle quand même que les banques régionales sont là, un peu comme ça, au bord du gouffre, et puis qu'elles sont prêtes à faire un grand pas en avant. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Les futurs sont légèrement en hausse ce matin. Demain sera une grosse journée, bien sûr. Dernière journée de repos, probablement deuxième journée de rebond pour Nvidia, parce que c'est trop cool, Nvidia. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à partager, à commenter, enfin, à faire ce que vous avez envie avec la vidéo. Et puis, à revenir me voir demain matin, à la même heure et au même endroit. Bye bye.